Alors, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de répondre à certaines des questions qui avaient été envoyées par écrit. Donc, je voudrais essayer de répondre à certaines d'entre elles maintenant. Je n'avais pu répondre qu'à la première de ces questions. Et maintenant vient la seconde, qui vient de Conrad Harvey. La question est la suivante. Ce chapitre sur la patience semble donner les instructions essentielles sur comment nous pouvons pratiquer afin de réaliser la bodhicitta relative en utilisant les comportements et valeurs samsariques que nous rencontrons au quotidien, à la fois en nous-mêmes et en autrui, en tant que carburant utile pour notre transformation. Pensez-vous que si davantage d'importance était accordée à ce chapitre sur la patience et à la transformation de circonstances apparemment négatives de façon habile à travers toutes les écoles du bouddhisme, cela ferait que davantage de pratiquants feraient une expérience authentique de la bodhicitta plutôt que d'en rester à une compréhension intellectuelle et conceptuelle de cette bodhicitta? Réponse de Rinpoche, oui, bien sûr, le chapitre sur la patience est important, il est très important, parce que c'est quelque chose dont nous avons profondément besoin. De façon générale, il est dit que la colère, la haine, le fait de se sentir blessé, les sentiments négatifs envers les personnes, l'impatience, en particulier la haine, c'est dit être la pire des expériences négatives que nous puissions faire. Et de ce fait, tout ce qui pourrait diminuer cette expérience, tout enseignement, toute pratique qui pourrait avoir un impact là-dessus, deviendrait par là l'enseignement le plus important, le plus utile, la pratique la plus bénéfique. Et donc, c'est pour ça, c'est à ce titre qu'on dit que la patience est dit être très importante, mais bien sûr, toutes les six paramitas sont d'égale importance. Il ne s'agit pas de dire que l'une serait plus importante que les autres, en un sens. Mais bien sûr, chacune des six paramitas, incluant la bodhicitta, en fait, on peut dire d'aucune de ces paramitas, ni de la bodhicitta, on pourrait dire qu'elle est un concept intellectuel. Elles se situent toutes sur le plan pratique, parce que tout ce qui transforme soit votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de réagir, votre façon de réagir, tout cela se situe au niveau de l'action, c'est de l'ordre pratique. Se situe sur le plan pratique et de l'expérience. Et donc si par là on arrive à se transformer ne serait-ce qu'un peu, à changer un peu, ne serait-ce qu'un peu, alors c'est cela qu'on va appeler le résultat de la pratique. La question suivante elle nous vient du groupe d'études de Bodhicharya Irlande, et donc c'est concernant une histoire qui est donc l'histoire se situe dans un commentaire sur un enseignement de Gyaltsap, de Sechen Gyaltsap, et qui est, cet enseignement il est contenu dans un recueil qui s'appelle Le grand médicament qui conquiert la saisie de la notion de réalité. Et ce commentaire, il est de Rabjam Rinpoche. Et donc, on commence par citer l'histoire. Donc, c'est l'histoire de l'un des disciples du Bouddha qui voulait devenir moine. Et le disciple du Bouddha, Shariputra, a utilisé ses pouvoirs pour découvrir quelle était la graine qui avait créé cette aspiration chez ce novice. Et parmi toutes les graines du passé, il y en avait une qui semblait insignifiante, mais qui était en réalité de la plus grande importance. Cet homme, donc ce disciple, avait précédemment pris naissance sous la forme d'un cochon qui avait été poursuivi autour d'un stupa par un chien. Et donc ce cochon avait, en étant poursuivi par ce chien, fait un certain nombre de circumambulations autour du stupa. Et cette connexion, apparemment petite, insignifiante, c'était ça qui l'avait mené à vivre une vie spirituelle dans le futur. Donc ça, c'est l'histoire, et puis la question reprend. Une discussion s'en est suivie concernant la vérité ou la justesse d'une telle histoire et son adéquation avec la réalité, et aussi son usage, son utilité pour donner une idée de la loi des causes et conditions, la loi des causes et des effets, au cours des vies successives. Et donc la question, c'est si tant est qu'il y ait de la vérité dans cette histoire, qu'en est-il du chien qui a poursuivi le cochon et qui a donc lui aussi fait le même nombre de circumambulations? Nous avons eu l'interprétation que le cochon, ce qui le poussait, l'émotion qui le poussait, c'était la peur. Et nous supposons que l'émotion qui poussait le chien, elle était plus de l'ordre de l'agression. Mais si le contact avec un monument sacré est central dans le fait de créer une connexion, qu'est-il arrivé au chien? Alors, la réponse de Rinpoche, c'est que cette histoire, donc il ne faut pas forcément penser que Shariputra a utilisé des pouvoirs pour créer quelque chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est seulement que il a vu. Shariputra en est venu à comprendre pourquoi cette personne a été en mesure d'être en contact ou en connexion avec le Dharma. Et puis, au bout du compte, comment cette personne a pu se transformer. Et ce qu'il a vu, c'est que la raison principale était liée à cette connexion qui avait pourtant l'air très insignifiante avec le Bouddha. Et ça, c'est sur... la signification ou la morale de l'histoire, ce qu'il y a à comprendre de cette histoire, c'est que il y a beaucoup de sutras où il est écrit que quiconque lira ou écrira ce sutra, ce mantra, quiconque le recopiera, quiconque détiendra ce sutra, ce mantra, le touchera, quiconque aura quelque connexion que ce soit, ou n'importe qui aura une connexion, ou par exemple, il y a des grands bouddhas, des bouddhas qui font cette dédicace que, quelle que soit la personne qui établira une connexion avec moi, que cette connexion soit positive, négative, ou même d'une façon, comment dire, totalement neutre, ni positif, ni négatif, ni neutre, juste des petites connexions toutes insignifiantes, que cette personne, que ça ait un effet sur cette personne. Quelle que soit la nature de la connexion qu'elle établira avec moi, positive, négative, neutre, que cette connexion ait un effet et que cette connexion aide la personne à établir une connexion plus forte, et que cette connexion aide cette personne à se libérer des souffrances et des problèmes du samsara. Et donc, cette histoire est un exemple qui veut illustrer ce point. Le chien n'avait pas l'intention de faire des circumambulations, Et le cochon non plus n'avait pas l'intention de faire des circumambulations. Simplement, ça s'est produit comme ça. Mais parce que ça s'est produit ainsi, puisque parce que il se trouve qu'ils ont tourné autour de ce monument en particulier, en fait, ils ont établi une connexion grâce aux dédicaces de ce Bouddha. Et c'est pourquoi, après longtemps, quand le temps était arrivé à maturité, et ben la connexion elle-même a mûri de façon positive. Et donc, ici, dans cette histoire, rien n'est dit, peut-être que rien n'est dit sur le chien, mais en fait, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que le chien n'aurait pas eu de connexion ou que ça n'aurait pas eu sur le chien. Je pense que c'est ça le point principal de cette histoire. Donc, la question est de Amy McCracken et elle dit la chose suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier trois points concernant la prière d'aspiration au Mahamudra de la certitude par le troisième Gyalwa Karmapa, Rangjung Dorji. Premier point à clarifier, puisse la brillance, puisse le rayonnement des trois sagesses augmenter. Deuxième chose, en comprenant la signification de la base, etc., et on en parle pendant longtemps. Et le troisième point, comment est-ce que nous pouvons faire pour nous éloigner petit à petit de la conceptualisation? De l'aide, s'il vous plaît. Alors, les trois sagesses pour le premier point. En fait, on dit trois sagesses, mais là, en réalité, il s'agit des trois façons de faire éclore et de faire grandir la sagesse. Donc, c'est l'étude ou l'écoute, la réflexion et la méditation. Ça, ce sont les trois sagesses. Ensuite, le deuxième point, comprenant la signification de la base, et donc on en parle encore et encore. Vous savez, la base, le chemin et le fruit, le Mahamudra de la base, le Mahamudra du chemin et le Mahamudra du fruit, le Mahamudra du résultat. En fait, quand vous dites la base, peut-être que la traduction n'est pas totalement correcte. C'est... En fait, la traduction, elle est littéralement, elle est correcte, parce que le mot en tibétain, c'est le mot qui veut dire terre. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est comment les choses sont en réalité. C'est la nature fondamentale, c'est la compréhension de comment sont les choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondement. Donc, ça parle de qu'est-ce que je suis, de comment les choses sont autour de nous. De quoi s'agit-il dont nous faisons l'expérience? C'est ça la base, le fondement. Parfois, on dit que le fondement, c'est un peu comme la vue. Ça porte sur comprendre comment les choses sont réellement. Et puis, quand vous avez un peu une idée de comment les choses sont, par exemple, quelle est ma vraie nature? Que suis-je ultimement? Quelle est ultimement la nature de mon esprit, de moi, de tout autour de moi? Alors, si j'arrive à avoir une certaine compréhension de cela, alors il faut que j'ai besoin de m'entraîner pour faire en sorte que cette compréhension, j'en fasse une expérience complète. Et les moyens, les méthodes, et donc tous les obscurcissements qui m'empêchent de faire cette expérience, c'est ça les entraînements, c'est ce qui va me permettre d'éliminer toutes ces choses qui m'empêchent de faire cette expérience. Et ça, c'est le Mahamudra du chemin. Et puis, à travers ces pratiques, à travers ces entraînements, en travaillant là-dessus, quand tous les obstacles sont éliminés et que j'arrive réellement à faire l'expérience de ma vraie nature complètement, de ma base complètement, de la façon dont je suis complètement, c'est ça le mahamudra du fruit, c'est la bouddhéité. Donc c'est pourquoi c'est dit ainsi. Troisième point, comment s'éloigne-t-on petit à petit des conceptualisations? En fait, vous savez, les conceptualisations, elles sont nécessaires. Nous sommes tous des personnes conceptuelles. Tout ce que nous comprenons, il nous faut le comprendre à travers des concepts. Donc, les concepts, ils sont nécessaires. Mais si on s'en tenait à des concepts, si on s'en tenait à des compréhensions intellectuelles, on ne pourrait pas se transformer. Quelle que soit la qualité de notre compréhension, de notre vraie nature, de notre nature ultime, de notre base, cette compréhension intellectuelle, si bonne, si raffinée soit-elle, ne ferait pas de nous des êtres éveillés. Elle ne nous permettrait pas d'éliminer tous nos obscurcissements, et donc cette compréhension conceptuelle doit devenir une expérience, et c'est pourquoi il est nécessaire d'aller au-delà des concepts et d'aller vers plus d'expérience, mais les concepts sont nécessaires. Et c'est pourquoi on parle toujours d'aller de votre tête à votre cœur. Le cœur ici, ça représente l'expérience, et la tête, ça représente les concepts. La question suivante, elle est de Julie Peters. Merci beaucoup pour ces enseignements. Il est fabuleux de les avoir dans les archives, de sorte que nous puissions les écouter encore et encore. Je sais que c'est une question un peu culottée, mais est-ce que vous allez continuer à faire ces sessions de 20 minutes pour les chapitres suivants du Bodhicharya Avatara? Merci beaucoup pour votre bonté. Réponse de Rinpoche, oui. Je vais on va étudier tout le Bodhicharya Avatara. En fait, les autres chapitres à partir du premier sont également dans les archives. Donc, n'importe qui peut les étudier, et je vais enseigner les chapitres de 7 à 10 aussi. Et je serai très heureux si vous ou quelqu'un ou n'importe qui ou tout le monde participe à cet enseignement. Donc la question vient de Karine de Belgique. Et la question est la suivante. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer comment, pendant le bardo de la mort, nous rencontrons, nous entendons, nous voyons, nous ressentons nos actes négatifs? Est-ce qu'il est le cas, est-ce qu'il est correct de dire que jusqu'à ce que chacun de nos actes négatifs ait été corrigé, nous allons continuer de rencontrer la personne ou la situation jusqu'à ce que nous ayons complètement corrigé tout ce qu'il y avait à corriger, tout ce sur quoi il fallait agir? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer ce point? La réponse de Rinpoche, le type d'expérience que nous avons durant notre vie, tout particulièrement les expériences fortes, elles reviennent dans nos rêves, n'est-ce pas? Et le bardo, c'est un peu comme les rêves. Donc, si vous avez beaucoup d'expériences fortes, qu'elles soient positives ou négatives dans votre vie, eh bien, des choses similaires pourraient se produire également dans le bardo. C'est l'idée principale. Et donc, on ne peut pas dire précisément comment les choses fonctionnent, etc. Et donc, ça pourrait être... On pourrait rencontrer les personnes qu'on rencontre encore et encore. C'est possible. Parfois, les choses se produisent ainsi. Mais parfois, Et ça arrive particulièrement si on a un lien karmique très fort, que ce soit positif ou négatif, mais aussi la façon dont je suis, dont je réagis avec les gens, c'est quelque chose qui se situe en moi. C'est ma façon d'être, ma façon de réagir. Et donc c'est ça qui arriverait encore et encore où qu'on aille. Ça va pas arriver seulement dans le bardo ou après cette vie, mais même dans cette vie. Notre façon de réagir, notre façon d'être, notre façon de faire les choses, quel que soit l'endroit du monde où nous irons, ce sera pareil, ce sera la même chose. Donc il n'y a rien de très différent. Et ensuite, c'est la dernière question de Linda à laquelle j'ai peut-être déjà répondu dans la session. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire quelque chose sur la patience quand on essaye d'aider quelqu'un qui a une maladie très difficile et qui sont frustrés par leur situation, qui ne peuvent pas tolérer ce qu'ils endurent comme limitation sur leur vie? Et Rinpoche répond, ça arrive très souvent, c'est très difficile, la vie, c'est pas facile. Tout particulièrement la vieillesse n'est pas facile. La maladie n'est pas quelque chose de facile. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, c'est pas facile. Quand vous rencontrez quelque chose de négatif, c'est pas facile. Donc il y a dans tout ça beaucoup de souffrances, de douleurs. Parfois on doit endurer, traverser beaucoup de souffrances et de problèmes dans cette vie. Et donc ça, c'est tout ça, c'est très douloureux, et parfois on peut faire quelque chose à ce propos. Parfois on ne peut faire que très peu pour changer ça. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous pouvons peut-être changer un peu la façon dont nous expérimentons, la façon dont nous nous relions à ça, la façon dont nous réagissons. Donc soit nous pouvons accepter les choses, où nous pouvons voir l'impermanence et la nature changeante de toutes choses. Et donc il y a en quelque sorte une sorte d'espoir là-dedans, puisque tout change et donc rien n'est figé. Et donc on peut essayer de faire de ces circonstances quelque chose d'un peu utile. Que tout ce qui nous arrive, les bonnes choses, les mauvaises choses, les bons moments, les mauvais moments, nous pouvons les utiliser comme une pratique qui va pouvoir nous aider un petit peu. Et c'est tout. Merci beaucoup.